Merci Eric pour cette présidence dynamique. Bonjour à tous, content de vous voir et de constater qu'il y a beaucoup de visiteurs parmi nous. J'espère faire votre connaissance après, fin de notre réunion. Moi je m'appelle Paul, je suis le pasteur et je suis sûr que ce n'est pas par accident que vous êtes là et que Dieu a quelque chose à vous dire, comme il a quelque chose à dire à nous qui sommes réguliers dans l'Église. Ce serait bien de prier juste avant d'ouvrir la Bible ensemble. Père Céleste, nous te remercions pour le fait que tu nous parles aujourd'hui, que ta parole est vivante et que ton esprit agit en nous, en nos cœurs. Et donc nous te prions que tu puisses le faire maintenant chez chacun, chacune qui entendra ton message. Que tu nous rendes sensibles à qui tu es, à ce qui nous attend et que nous ayons envie d'entrer dans ton projet pleinement. Amen. Le changement à une nouvelle année, toujours le moment pour se projeter un petit peu et pour se poser la question, qu'est-ce que nous voulons de l'année 2024? Et qu'est-ce qui va se passer en 2024? En fait, on n'en sait rien. Alors j'ai fait un peu comme tout le monde, quand on se pose des questions, je demandais à Google ce qui se passera en 2024. Et voici les titres des articles que Google m'a recommandés. TVA, chèque repas, santé, ce qui change dès le 1er janvier 2024. Ou, autre titre, les 10 principales évolutions géopolitiques en 2024. Alors, on ne sait pas, mais on peut deviner peut-être certaines de ces évolutions. Certains sont plus farfelus comme titre. Un nouveau pape, Harry sur le trône d'Angleterre, ça m'a amusé ça. D'autres sont plus pessimistes. Comme l'article « Le déclin de l'Occident se poursuivra ». Bien sûr, cette année 2024 est aussi l'année des élections. On peut anticiper, peut-être que ça va être l'année où des choses vont changer. L'année où la Belgique gagnera l'euro en Allemagne. Ou peut-être que vous avez un projet plus personnel. Ce serait bien, 2024, vous avez déjà inscrit dans votre calendrier certains événements en 2024. Il y a une fête de famille, il y a un voyage, il y a un mariage, il y a un heureux événement. Vous anticipez ça? Qu'est-ce que vous avez hâte de voir? Qu'est-ce qui est déjà dans votre calendrier? Vous savez que deux femmes chrétiennes avec qui j'ai parlé récemment m'ont marqué par leur attitude. Une, au début de l'année, a dit « Peut-être que Jésus reviendra cette année ». Et une autre, fin 2023, on approchait du 30, du 31, le week-end du 30 et 31, et elle a écrit « Que le Seigneur vienne tous nous chercher en cette nouvelle année, ou même ce week-end. » Elle n'avait même pas envie d'attendre 2024. Elle avait tellement hâte, elle avait cette attente, les deux femmes qui ne se connaissaient pas, elles viennent d'autres églises, mais elles étaient centrées sur Christ, dans leur espérance, dans leur attente pour cette nouvelle année. Et dans ces prochaines semaines, à partir d'aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble à ce grand thème biblique qu'est le retour de Jésus-Christ. Beaucoup de passages de la Bible en parlent. Et donc, chaque dimanche, on va prendre un passage et un thème, un aspect, pour découvrir un peu plus sur ce qui nous attend. Et là, ce ne sont pas des choses qui pourraient arriver, ce sont des choses qui vont arriver. Peut-être pas cette année, mais en tout cas dans les années à venir. Vous savez que dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup de livres. Je ne pense pas que chaque livre du Nouveau Testament en parle, mais chaque auteur du Nouveau Testament parle du retour de Christ, annonce que Jésus reviendra. Et donc nous allons commencer pour cette première journée, première matinée, en le livre des Actes. Ouvrez la Bible au livre des Actes. Certains versets seront projetés plus tard, mais ici on va vraiment se concentrer sur ce passage, alors que c'est important de l'avoir sous les yeux dans votre Bible. Acte chapitre 1, et on commence au tout début. Acte chapitre 1, verset 1. Acte 1, verset 1. Cher Théophile, dans mon premier livre, c'est Luc qui écrit, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner. Jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivant et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous annonce, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Voilà notre lecture. Je crois que pour certains, c'est plus difficile de croire que Jésus va revenir que de croire à sa résurrection. Qu'il puisse revenir de la mort, c'est quelque chose d'extraordinaire, il y a des gens qui doutent de cela, mais qu'il puisse revenir, lui qui était là, premier siècle, qu'il puisse revenir, c'est quelque chose d'inouï. Et il y a beaucoup de gens qui ont du mal à croire cela. Et de temps en temps, des gens pensent que la Bible a été écrite avec de belles idées, mais qu'elle n'était pas forcément vraie. C'était pour donner aux gens quelque chose à croire, à quoi s'accrocher, un faux espoir. Mais ne pensez-vous pas que ça aurait été plus facile de dire aux gens, « Alors Jésus vous attend au ciel, et vous, vous irez au ciel quand vous mourrez », que de dire ce qu'ils ont dit, « Il viendra du ciel ». Pourtant, c'est ce qu'ils ont dit. Et Jésus aussi l'avait prédit, ça veut dire que ça se réalisera. Parce que Jésus a prédit qu'il allait mourir crucifié, et ça s'est réalisé. Jésus a prédit qu'il allait ressusciter après 3 jours, et ça s'est réalisé. Et donc si Jésus prédit qu'il va revenir, ça se réalisera aussi. Alors ce message ne concerne pas le livre des Actes. On ne va pas expliquer comment Jésus a continué à enseigner, comme il est dit au verset 1, que Jésus a continué à enseigner à travers les apôtres, ce qu'il avait commencé dans le livre de Luc. On ne va pas parler de la résurrection, ici il est question du fait qu'il a présenté des preuves, qu'il était vivant, verset 3. On ne va pas parler du Saint-Esprit qui a continué le travail de Jésus et qui nous équipe pour la mission. Mais ce message concerne le retour de Jésus. On va se poser la question à travers ces versets, qu'est-ce qu'ils nous disent sur le retour de Jésus et comment nous sentir par rapport à cette vérité, par rapport à cette réalité, ce rendez-vous qui nous attend. Parce que le retour de Jésus changera toute la réalité. Rien ne sera plus jamais le même une fois que Jésus reviendra. Et la vérité de ce retour futur affecte, doit affecter déjà notre vie aujourd'hui. Alors de quoi est-ce que nous pouvons parler? Qu'est-ce qu'il nous annonce? D'abord, il nous annonce le royaume de Christ. Pendant 40 jours, les disciples se sont réunis avec Jésus, l'ont écouté plusieurs reprises, et Jésus leur parlait de quoi? Du royaume de Dieu, verset 3. Eux avaient le temps de poser plein de questions. Je suis sûr qu'ils auraient posé plein de questions. C'est intéressant, alors qu'il n'y a qu'une seule des questions des apôtres qui a été retenue et inscrite par Luc. Au verset 6. « Seigneur, est-ce à ce moment que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Ils ont compris. Jésus est le Christ, ce qui signifie qu'il est roi. Il est de la bonne généalogie pour être roi, et il est choisi par Dieu pour être roi. Et s'il est roi, ça veut dire qu'il a un royaume. Et donc, c'est tout à fait logique de demander, alors le royaume, c'est maintenant ? C'est pour quand, là, le royaume ? Mais le royaume n'est pas comme on le pense. N'importe quelle définition du royaume de Dieu n'est pas forcément juste. Je vais vous raconter une histoire. À un moment, Jésus était avec ses disciples, longtemps avant ce moment-là. Et il a fait une séance de questions-réponses. Sauf que ce n'était pas eux qui posaient des questions, c'était lui qui posait des questions, comme d'habitude. Et il leur a dit, qu'est-ce que les gens disent de moi ? Il les a un petit peu interrogés. Et la réponse des disciples était, en fait, ils pensent que tu es un prophète, parce que forcément Jésus enseignait la parole, il annonçait la parole de Dieu, et il faisait les miracles, et d'autres prophètes auparavant avaient fait cela. Mais Jésus sait que ça, ce n'est pas la bonne réponse. Et donc, il leur dit, mais vous qui, en quelque sorte, m'avez vu, suivi, écouté, vous avez vu plus que ça, vous, je suis qui selon vous ? Et Pierre, Simon-Pierre était le premier à répondre, comme d'habitude, et il a dit, tu es le Christ. Ça veut dire, tu es le roi. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui vient juste après, c'est qu'il est écrit dans l'évangile de Luc, chapitre 9, verset 21, « Jésus le recommanda sévèrement de ne le dire à personne. » Vous ne trouvez pas ça un peu bizarre ? Il y a la bonne réponse, là. « Simon-Pierre, tu as raison. Maintenant, on va le dire à tout le monde. Ok ? Non. Pourquoi ? Qui est ce roi qui ne veut pas que les gens savent qu'il est roi ? C'est parce qu'il n'est pas le roi que beaucoup imaginent. C'est un roi qui meurt. Ce n'est pas un roi qui domine. C'est un roi qui donne la vie au lieu de garder sa vie. Et Jésus savait qu'il devait beaucoup expliquer avant que les gens commencent à savoir qu'il est le roi. Et même ici, Jésus est sur le point de partir, mais je ne pense pas qu'ils savent que Jésus est sur le point de partir. Et ils doivent comprendre que le royaume est pour eux, mais pas pour tout de suite. Jésus doit leur montrer qu'il y a des choses qu'ils ne connaissent pas. Verset 7, le temps et le moment, vous n'allez pas pouvoir savoir ça. Certaines choses demeurent connues par Dieu seul, ne sont pas encore révélées. Mais il y a des choses qu'il révèle. Et une des choses qu'il révèle, c'est que le royaume de Dieu est maintenant au ciel. Vous avez remarqué peut-être dans la lecture combien Luc souligne le fait que Jésus est au ciel. Verset 2, il a été enlevé au ciel. Verset 9, il s'éleva. Verset 11, il était enlevé au ciel, il est allé au ciel. Il veut vraiment qu'on ne loupe pas cette réalité. Jésus est parti au ciel. Il est là avec son corps ressuscité, son corps glorieux. Et les autres chrétiens, les autres croyants de l'Ancien Testament, les croyants fidèles, Abraham, Moïse, David et tous les autres, sont là aussi, mais pas leur corps, leur âme. Et tous ceux qui nous ont quittés, si leur foi était réellement en Jésus-Christ, ils vivent avec lui, au ciel aujourd'hui. Et il est là à la droite de Dieu le Père, sur son trône. Là où il est roi, il y a le royaume. Le Seigneur Jésus n'est pas en attente en disant « je vais régner plus tard ». Il règne au ciel aujourd'hui. Voici comment l'Apocalypse le décrit, parce que bien sûr, on va souvent regarder l'Apocalypse pour avoir une confirmation de ce qui est annoncé dans le Nouveau Testament. Au chapitre 12, verset 5, c'est projeté ici. Il est dit qu'un enfant est né qui va régner sur les nations, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Il parle de Jésus, là, d'accord ? Il a été enlevé vers Dieu et vers son trône. Et puis, Jean écrit, « J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. C'est pourquoi, réjouis-toi, ciel, et vous qui habitez le ciel. » Tous ceux qui sont dans le ciel, ceux qui ont été sauvés déjà dans l'Ancien Testament, par leur foi en Jésus, la promesse de celui qui allait venir, ils étaient en train de se réjouir parce que Jésus était monté au ciel. Son royaume a commencé, a été inauguré. Toutefois, même si nous reconnaissons la séparation entre le ciel et la terre, nous ne sommes pas encore au ciel, n'est-ce pas ? Mais nous pouvons nous réjouir que la puissance de Dieu agit sur terre, sa puissance spirituelle est à l'œuvre aujourd'hui et se répand sur terre, parce que juste après les disciples qui posaient cette question sur le royaume, Jésus n'a pas dit non, il n'y a pas de royaume, non, il n'y aura pas de ça. Sa réponse est, je ne vais pas vous dire le timing, mais vous allez recevoir une puissance extraordinaire, une puissance surnaturelle. Le Saint-Esprit Tout-Puissant arrive et il va agir de telle sorte en vous, les chrétiens, mes disciples, pour que la bonne nouvelle se répande jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que tout le monde doit entendre que Jésus est le roi. Pas le roi dans un petit quartier ou dans une ville, mais le roi partout, parce qu'il règne dans le ciel. Et son règne sera pleinement établi à une date future. Ce n'est pas encore maintenant que c'est pleinement établi, ça a commencé dans les cieux, mais c'est pour l'avenir. Il y a une parabole que Jésus a racontée qui était pareille à ce qui se passait à l'époque. Vous savez, quand Hérode est mort, Archélaüs, son fils, s'est rendu à Rome pour être investi de l'autorité royale, pour que la puissance de Rome puisse dire « maintenant tu seras roi là-bas ». Et Jésus raconte une parabole. On va juste regarder, vous pouvez l'évangile de Luc, s'il vous plaît, premier livre de Luc, mais au chapitre 19, et puis on reviendra dans le livre des Actes. En Luc 19, Jésus raconte une parabole qui vraiment illustre bien cette réalité. Vous voyez, Luc 19, 11, « Comme la foule écoutait cela, Jésus ajouta une parabole. En effet, il était près de Jérusalem, et l'on croyait que le royaume de Dieu allait apparaître immédiatement. Il dit donc, un homme de haute naissance partait dans un pays lointain pour se faire désigner roi et revenir ensuite. » Vous voyez ce qu'il est en train de dire là ? Où est le pays lointain où Jésus s'est fait roi ? Ce n'est pas la terre, ce n'est pas Jérusalem. Il est parti d'ici pour aller dans un pays lointain, le ciel, où il a été désigné roi et il va revenir ensuite. C'est ça le sens de cette parabole. D'accord ? Et donc il est là, dans un pays lointain. Mais quand il reviendra, alors son royaume sera pleinement arrivé et il dira à ses fidèles, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé. » Matthieu 25, verset 34. Quel avenir ! Commencez à voir l'importance de ce retour, comment il est indispensable. Vous voyez un peu ce qui nous attend et comment c'est glorieux. Le fait que Jésus revienne, ça change tout. Et on aura l'occasion d'en parler pour les prochaines semaines. Mais ici, nous comprenons déjà que nous devons vivre comme citoyens du ciel, les pieds sur terre. Au verset 11, les anges leur disent « Mais regardez pas le ciel, on va juste regarder là, dire voilà, est-ce qu'il est là, il est là ?» Mais non, on a des choses à faire. Et donc, les disciples ont adoré, l'évangile de Luc explique que quand Jésus est monté au ciel, ils l'ont adoré après son départ, et puis ils sont retournés dans la ville de Jérusalem pour la réunion de prière de l'Église. Verset 14, ils persévéraient dans la prière avec les autres chrétiens. C'est tout simple, vous savez. Pour le moment, la vie chrétienne continue. Et la vie chrétienne n'est pas de la spéculation sur ce qui va arriver ou ce qui va se passer. C'est suivre Jésus dans le courant de la vie. Et c'est de ça qu'on parle généralement de semaine en semaine, n'est-ce pas ? C'est comment vivre. Mais maintenant, on va comprendre qu'on vit en attendant quelque chose. Je vais dire quelque chose sur la marque de la bête, mais on va voir d'autres choses ce matin, j'ai encore d'autres choses à vous dire. Mais je vais quand même dire une chose. Dans l'Apocalypse, quand il décrit l'humanité, Jean dépeint certaines personnes comme marquées par la bête, mais d'autres personnes comme marquées non par la bête, mais par le nom de Jésus et par le nom du Père. Ça, c'est nous, n'est-ce pas ? Nous sommes marqués par le nom de Jésus. Nous appartenons à Jésus. Et après avoir annoncé les souffrances de ceux qui sont ennemis de Dieu et qui suivent la bête, Jean écrit, ici, c'est le verset qui sera projeté, « C'est ici qu'est nécessaire la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. » Il revient au concret, il revient à la vie pratique du croyant. Qu'est-ce que je dois faire ? Eh bien, c'est tout simple. Regardez ce verset. Persévérer, ça c'est la vie chrétienne. Persévérer, garder les commandements de Dieu, aimer Dieu et aimer notre prochain. Et garder la foi en Jésus, c'est tellement important. Et parfois, nous nous compliquons les choses. Je pense surtout dans ce domaine. Nous nous compliquons tellement les choses. avec nos structures, avec nos habitudes, avec les choses qui sont nécessaires. Mais finalement, c'est juste suivre Jésus, adorer Jésus, être fidèle à Jésus. Et puis, on sera prêt pour lui. Mais deuxièmement, nous allons voir que le retour de Jésus sera visible. Le retour de Christ sera visible. C'est assez évident quand on regarde les versets en Actes chapitre 1. Actes 1, 11, il dit « Jésus reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Ce ne sera pas comme sa première venue avec un bébé, vous vous souvenez, Noël, humblement, né quelque part, tout discret. Les gens ne savaient pas que c'était Jésus. Là, ce ne sera pas comme ça. Il reviendra comme adulte. Ce ne sera pas une venue spirituelle, comme quand Jésus vient dans notre cœur par son esprit. Et personne ne le voit. Ici, c'est une venue d'un homme physique, vivant. Il a donné ses preuves qu'il est ressuscité au verset 3. Et donc, ce sera plutôt comme son départ. Il est parti, et ce n'était pas en secret, il est parti, et tout le monde l'a vu, et il reviendra de la même manière sur les nuées. Il sera au ciel, et il sera vu quand il reviendra. Mais quelqu'un dit, oui, mais Paul, qu'est-ce que ça veut dire que Jésus viendra comme un voleur? Est-ce que la Bible n'annonce pas que Jésus reviendra comme un voleur? Eh bien, oui, on va en parler la semaine prochaine, parce que c'est important de clarifier cela. Ce sera justement le thème de la prédication dimanche prochain. Mais il ne viendra pas en secret. Il l'a dit en Luc 17. Il veut nous avertir que quand quelqu'un dit « il est ici » ou « il est là », n'y allez pas, n'y courez pas. N'allez pas au Brésil aujourd'hui où il y a quelqu'un qui dit qu'il est Jésus et qui vit dans un centre avec des gens qui l'adorent. N'allez pas en Chine où il y a quelqu'un qui dit qu'elle est la réincarnation de Jésus, fils de Dieu. Non, ce n'est pas ça. Il ne vient pas dans un coin du monde. Jésus reviendra, tout comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre. Ainsi sera le fils de l'homme dans son jour. Ça veut dire que ce sera impossible de le rater. Tout le monde le saura. Que ce soit la nuit ou le jour, il fera le tour du monde. Les gens verront le ciel. Personne ne sera en train de dormir et ratera le retour de Jésus, tout le monde sera réveillé à ce moment-là pour ce moment. Tout œil le verra. Ce sera impossible de le rater. Vous n'allez pas le rater. Si vous êtes vivant, ce sera immanquable. Alors ici, je signale une divergence entre ce que j'affirme et ce que d'autres chrétiens enseignent, des chrétiens bibliques aussi qui suivent la Bible. Il y aura des divergences, des petites divergences en cours de route entre personnes fidèles à la Bible. Dans certains détails, nous ne devons pas nous diviser sur cela, d'accord? Promettez que vous n'allez pas vous diviser sur ça. Certaines personnes pensent qu'il y a une venue secrète de Jésus pour enlever les siens avant qu'ils ne viennent de manière visible. D'autres, comme moi, pensent que ces deux événements auront lieu en même temps et que lors de sa venue visible, il élèvera les chrétiens dans les airs de manière publique. Donc nous croyons aux mêmes événements, d'accord, mais la chronologie diffère. Et c'est important de voir les différences de détails parfois dans une interprétation ou une autre, tout en restant fidèle aux événements qui sont annoncés. Au moins, nous saisissons ce matin que Jésus changera tout dans son arrivée. Nous n'avons pas eu la possibilité de voir Jésus au 1er siècle. Pour nous, ce sera une première. On va le voir. On ne va pas le revoir, mais on va le voir. Et ça changera notre rapport avec lui. De la foi, nous passerons à la vue. Alors, j'essaie de penser à comment nous pouvons illustrer cela. Et j'ai pensé à deux exemples de ma vie. Le premier exemple, c'est dans le temps. Avant les emails, on avait quelque chose qui s'appelait les lettres. Alors, pour les jeunes, vous n'avez pas connu ça, il y avait des enveloppes. Dans l'enveloppe, on mettait un papier, on écrivait des choses sur le papier, on mettait un timbre, on allait à la poste, on mettait dans la poste. Oui, ça marchait. Et alors, l'autre personne recevait ça. Et j'avais quelqu'un qui était une correspondante, mais que je n'avais jamais rencontrée. J'étais ado, elle aussi, elle était ado, elle était chrétienne, et on s'écrivait des lettres. Il n'y avait pas Facebook et Instagram à l'époque, hein. Il n'y avait même pas Internet. Donc voilà, c'est tout simple. Mais c'était un peu pareil, parce que c'était pas romantique, mais c'était quand même personnel. On s'écrivait, moi c'était surtout des propos théologiques, et on avait des débats, des arguments, etc. Mais on apprenait à se connaître. Et on ne s'était jamais vus pourtant. Et puis finalement, un jour, on s'est dit, voilà, on va se rencontrer. Et on a pris rendez-vous, je suis allé là-bas, et en se rencontrant, c'était étrange, parce qu'on se connaissait, je connaissais plein de choses sur elle connaissait plein de choses sur moi, mais on ne s'était jamais vus. Et la communication a été transformée. Ce n'est pas devenu une relation romantique, mais c'était simplement une autre dimension de communication. On dit que c'est immédiat quand il n'y a pas de média entre la personne. Le média qu'on avait eu, le médium, c'était des lettres. Maintenant, on n'avait pas de moyen de communication. On n'allait pas écrire chacun un mot pour échanger les mots. On se voyait. On se comprenait tout de suite. C'était autre chose. Et je pense que ça va être comme ça. On va entrer dans une autre dimension avec le Seigneur Jésus que simplement des lettres qu'il nous a envoyées et des prières que nous lui avons adressées par la foi. Mais je veux vous interpeller en ce troisième volet de ce message. S'il vous plaît, sur notre attitude vis-à-vis de ces choses. Ce ne serait pas complet simplement d'annoncer ce qui vient, sans aussi nous poser la question, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on se sent par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on vit? Comment est-ce que vous vivez ça? La certitude de savoir qu'un jour, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus, comme Pierre le chante. On a vu qu'il instaurera son royaume. On a vu que le royaume, la venue de Jésus sera visible. Mais quelle est notre émotion par rapport à ce retour? Et particulièrement cette question, avez-vous hâte de le voir? Ou est-ce que vous dites, oh, si seulement j'avais vécu au premier siècle, j'aurais vu Jésus. Mais non, on va tous voir Jésus. Il va venir, on va le voir. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra, écrit Pierre aux chrétiens. Il y a quelque chose qui vient. C'est un moment de grâce. Et très souvent, malheureusement, les chrétiens ont peur de la venue de Jésus. Oh, j'ai peur. Et c'est ça notre émotion dominante. Ou peut-être qu'on a peur des souffrances, du martyr, d'un monde enragé contre Christ, des tremblements de terre, des gémissements. Mais le retour de Jésus sera quelque chose de formidable. Mes amis, je veux vous encourager. La Bible est riche en encouragement dans ce sujet. Lorsque vous lisez les passages de la Bible qui parlent du retour de Jésus, c'est toujours une bonne nouvelle pour les chrétiens. Ce sera le plus beau jour de votre vie. Je vous assure, pour les chrétiens fidèles, on ne s'en rend pas compte, mais ce sera la meilleure chose qui puisse nous arriver, que Jésus descende du ciel et qu'il vienne à notre rencontre. Comme je dis, j'ai cherché parmi mes expériences pour essayer de voir quelque chose qui serait proche de ça. Évidemment, il n'y a rien qui est aussi proche, qui se rapproche à ça, mais j'ai quand même trouvé un exemple. Un de mes amis, mon meilleur ami à l'université, était un gars qui s'appelle Luc. C'est un chrétien avec énormément de qualités que j'apprécie. Fils de missionnaire, il était chrétien, il était témoin sur le campus universitaire avec moi. On priait ensemble, on partageait tout, il était vraiment quelqu'un de formidable. Après l'université, quelques années plus tard, bien sûr, rester des amis très proches. Il était celui que j'ai choisi pour être témoin à mon mariage. Ensuite, il m'a suivi la faculté de théologie, a suivi les mêmes cours de théologie ensemble. Et puis, je suis venu ici et lui est parti enseigner la théologie pastorale aussi, comme moi. Mais lui est parti au Chili, Amérique latine. Rassurez-vous, cette histoire n'a pas une fin triste. Il était un peu crispé en disant, oh là, et puis il est divorcé, il est mort. Non, c'est pas ça. Ok. On est resté en contact, parce qu'une bonne amitié comme ça, ça se préserve. Ah là, on est retourné mode mail, voilà, pour rester en contact. On n'oublie pas cette amitié, même s'il est au loin. Et on était tellement pareil qu'on vivait les mêmes choses. Lui en train d'enseigner là-bas, moi en train d'enseigner ici, en train de persévérer avec le Seigneur, marié, père de famille, etc., etc. Alors en 2020, avant la pandémie, Luc était de retour en Angleterre. Et j'étais en vacances là-bas. Et on a dit, on doit se voir. Et je vous assure, le moment où je l'ai revu, c'était quelque chose, après 6 ans, on ne s'était pas vu. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et ce moment-là, je pense que c'est un moment dans la vie qui est un peu un avant-goût de ce qui nous attend. quand quelqu'un ouvre la porte et il te connaît pleinement et il t'accueille chez lui, tu dis « Ah !» Et tous les deux, on était là en train de dire « Ah !» Et on n'a presque pas besoin de paroles. On se voit, on se connaît, on s'aime, on est réunis. Formidable. Alors j'ai regardé dans les ailes de la foi, c'est le recueil de chants plus anciens. Et là, vous entendrez que beaucoup de croyants du passé ont écrit des beaux chants qui concernaient le retour de Jésus. Les croyants du passé pensaient beaucoup à cela. Écoutez les émotions dans ce texte. Je ne vais pas la chanter, mais écoutez les émotions du texte. Nous attendons le Sauveur glorieux d'un cœur joyeux rempli de confiance. Il va régner sur la terre et les cieux dans le beau jour de notre délivrance. Voir face à face notre Sauveur. Oh, quelle grâce! Quel parfait bonheur! Voir face à face notre Sauveur. Oh, quel parfait bonheur! Alors, vous avez hâte? Ou est-ce que vous avez hâte d'autre chose? Peut-être que nos priorités sont dans le mauvais ordre. Votre amour pour Dieu est devenu tiède. Votre passion est ailleurs. Bientôt les vacances. Peut-être que c'est le boulot, le mariage, la maison, la retraite. Mais ne voyez-vous pas que le vrai bonheur qui est annoncé par ce chant, le vrai bonheur, ce n'est pas ce que nous pouvons grappiller ici dans la vie courante. C'est d'être enfin dans la présence de notre bon Dieu, comme il le souhaite. Ton trésor n'est-il pas Jésus, qui est au ciel ? La pierre angulaire n'est-elle pas précieuse pour toi ? Mais si vous vous sentez confortable, parce que la vie est belle, parce que tout va bien pour le moment, alors vous ne ressentez pas le besoin que Jésus revienne. Alors vous n'êtes pas pressé pour voir Jésus. Par contre, si vous n'êtes pas confortable, comme quand on n'est pas très à l'aise dans notre maison et Dieu nous donne envie de déménager, ou quand on est malade et on dit « Ah, bientôt mon nouveau corps », alors vous aurez envie de prier « Oh Seigneur, j'aimerais bien être à l'étape suivante. J'aimerais bien déjà que Jésus revienne. » Et c'est ainsi que ceux qui souffrent au premier siècle, quand Jean leur écrit, et lui aussi était en train de souffrir, n'oublions pas, la persécution contre les chrétiens, il termine en disant ce que la Bible souhaite, ce que l'Esprit souhaite et ce que l'Église souhaite. En Apocalypse 22, l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Et celui qui atteste ces choses, ça veut dire Jésus, dit « Oui, je viens bientôt ». Et comment réagit l'Église ? Ah bon, voilà, on verra bien. À bientôt, alors, bon, on va faire encore quelque chose, il y a des choses qui se passent. Mais non ! L'Église répond « Viens, Seigneur Jésus, viens ». Est-ce que vous entendez l'envie qu'il y a là ? L'envie qu'il vienne ? La hâte de voir le jour, de l'aube de ce jour où Jésus viendra ? Autre chant, juste pour comprendre l'émotion. « Oh, quand sera-ce, Fils de Dieu, que ton Église émue, verra son époux de saint lieu descendre sur la nue ? Réponds à notre cri, Seigneur, et viens bientôt, puissant vainqueur. Oh, viens, Seigneur Jésus. Tu nous donnes ta douce paix, nous sentons ta présence, tu ne nous laisseras jamais, c'est là notre assurance, mais quand pourrons-nous donc enfin te voir, ô notre époux divin ? Oh, viens, Seigneur Jésus. De tous tes ennemis, ô Dieu, nous voyons la puissance, que de rebelles en tout lieu, de vices et de souffrances. Viens bientôt, grand triomphateur, mettre un terme à tant de douleurs. Ô, viens, Seigneur Jésus, ô, viens. Seigneur Jésus. » Alors je termine avec ces mots de l'Apocalypse, chapitre 22, qui mettent un peu tout ensemble que nous avons vu ensemble ce matin. En Apocalypse 22, versets 4 et 5, ils décrivent les chrétiens qui adorent Jésus, qui rendent un culte à Jésus. Il dit ceci, « Ils verront son visage. » Ils verront son visage. Son nom sera sur leur front et ils régneront au siècle des siècles. C'est ce qui nous attend. Si nous sommes pardonnés par Christ, si nous appartenons à Christ, si nous vivons pour Christ, c'est ce qui nous attend. Prions. Oui, Seigneur, on te demande pardon parce qu'il y a des choses qu'on a perdues de vue. Le retour de Jésus, bien entendu, tout ce qui va avec. Mais notre prière est toute simple. Reviens, Seigneur Jésus, que nous puissions te voir, te contempler, t'adorer, être enfin dans ta présence, dans la communication immédiate, pouvoir vivre cette communion éternelle que tu prépares pour nous. Amen.